France Inter, il est 13h. Le 13-14, Bruno Duvic.
Soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. Une France orange mécanique ou bien qui a réinvesti dans sa sécurité. La police comme thème de campagne en ce début de semaine. Emmanuel Macron à Nice, il répète la promesse, doubler le nombre de policiers sur le terrain d'ici à 2030. Je serai dur avec les caïds et les voyous, promet de son côté Valérie Pécresse. La campagne, c'est aussi la gauche en quête d'une impossible unité. À 13h30, Pierre Larouturou, candidat à la primaire populaire, en grève de la faim pour exhorter à l'unité. Vos questions à notre invité 01 45 24. 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Priorité aux symptomatiques et cas contacts fragiles. Face à l'afflux de patients en quête de tests, de nouvelles règles sont fixées. Dans les laboratoires, les nerfs sont à vif.
J'ai une file de 100 personnes. Vous voulez venir à ma place, sortir dehors pour dire aux gens qu'il faut qu'ils repartent chez eux et d'autres qui sont prioritaires?
En Israël, test PCR réservé aux plus de 60 ans. En France, jeudi, appel à la grève à l'école. La FCPE demande aux parents de se joindre au mouvement et garder leurs enfants chez eux. Dans l'actualité encore, 2021, année très chaude, une étude de plus. Nous vous parlerons aussi de ce village de la Sarthe où le taux de natalité est deux fois supérieur à la moyenne française. Des urbains du coin venus s'installer à la campagne. Et puis la météo, alerte rouge dans les Landes et une bonne partie des Pyrénées. Le feuilleton, une semaine dans la vie de Zaya Ziwani, exception dans le monde de la musique, femme chef d'orchestre, toujours en Seine-Saint-Denis où elle a grandi dans une famille venue d'Algérie. Le vif de l'histoire, portrait de l'homme dont le nom est quasi synonyme de vaccin, Pasteur. Et dans C'est une chanson, l'écrivain Eric Fotorino nous fait écouter un titre qui l'a aidé à passer les journées Covid, Space Oddity de David Bowie. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Sur quel thème va se jouer la présidentielle? Quel sujet les candidats ou quasi-candidats vont-ils mettre en avant auprès des électeurs? Ce début de semaine se fait sous le signe de la sécurité. Emmanuel Macron est à Nice aujourd'hui. C'est dans les locaux d'un futur hôtel de police où doivent travailler ensemble à l'avenir policiers municipaux et nationaux qu'il s'est exprimé ce matin. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
En direct de Nice pour France Inter avec Jérémy Tuile. Alors qu'un des hommes forts à Nice, Éric Ciotti, accuse le président de laisser derrière lui une France orange mécanique, autrement dit très violente, eh bien Maxence, Emmanuel Macron défend sa stratégie.
Oui, tout à fait. Opération Riposte avant même l'entrée en campagne. La droite décrit cette France orange mécanique et lui sort ses chiffres, détaille ses résultats dans une sorte de grand débat debout au centre du futur hôtel des polices de Nice.
On ne peut pas dire tout part à volo, tout augmente, tout explose. Les chiffres ne disent pas ça. On a sur les cambriolages de logements une baisse de 15%. On a sur les vols de véhicules ou les vols avec armes une baisse respectivement de 22 et 29%. Et sur les vols violents sans armes, une baisse de 27%.
Voilà, des chiffres en baisse, mais des actions globalement plus violentes, il le reconnaît. Des manifestations qui dégénèrent, des incivilités quotidiennes par endroits. Le chemin est encore long, confie-t-il. Mais les 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires promis seront bien là en fin d'année. Alors que la droite en avait supprimé 13 000, il tient son argument de campagne et revendique aussi sa police de sécurité du quotidien. Son harcèlement des trafiquants de drogue, 10% de trafic en moins l'an dernier, assure-t-il.
Et puis alors qu'il n'est pas encore officiellement candidat, Emmanuel Macron a déjà son projet pour le prochain quinquennat, Maxence.
Évidemment, ne pas en rester là et se montrer satisfait des chiffres qu'il vient de détailler. Ses promesses de campagne, elles vont s'inscrire dans une loi d'orientation bientôt présentée en Conseil des ministres, mais qui n'aura pas le temps d'être débattue et adoptée au Parlement. Voilà le projet.
On a un objectif qui est de doubler la présence policière sur la voie publique à horizon 2030. Comment ? Par les créations que j'évoquais, par la suppression des tâches indues ou périphériques. Parce qu'aujourd'hui, nos policiers comme nos gendarmes, ils font beaucoup de tâches qui ne changent pas votre quotidien.
Cette réorganisation du temps de travail, moins d'administratifs pour les policiers, moins d'escortes par exemple, cela doit libérer 6500 postes vite redéployés sur la voie publique. Et Emmanuel Macron vient aussi d'être interpellé sur les violences intrafamiliales en répondant à une demande des associations.
Nous allons créer un fichier de prévention des violences intrafamiliales. Toutes celles et ceux qui sont signalés comme étant auteurs de violences familiales seront maintenant dans un fichier. Deuxième chose, nous allons doubler les enquêteurs dédiés, soit 2000 policiers et gendarmes supplémentaires dans les unités spécialisées.
Et en ce moment même, il continue de dérouler ses annonces qui intégreront bientôt son projet présidentiel.
Annonces qui comprennent notamment le triplement de l'amende pour le harcèlement de rue. Maxence Lambrecq en direct de Nice pour France Inter avec Jérémy Thuil. Alors que le président défend donc son bilan en matière de sécurité, quelle sera la réponse d'une de ses principales candidates, Valérie Pécresse, qui doit s'adresser à la fois aux électeurs centristes et nettement plus à droite. Jeudi, elle avait fait du Sarkozy en disant vouloir ressortir le Karcher de la cave. Invitée de nos confrères de France Info ce matin, elle assume.
Je reprends le flambeau de la droite, d'une droite qui sera, contrairement à Emmanuel Macron, dure avec les puissants, dure avec les caïds, avec les voyous, qui va aller les traquer, qui va aller les débusquer, qui va aller les punir. C'est ça, c'est le flambeau, je le reprends. Le Karcher, c'est l'étendard, justement, d'une politique de droite qui ramène la sécurité dans les quartiers. Et moi, je vais reprendre cet étendard, je vais le relever, parce que cet étendard, il a été mis à terre. Et vous savez, une société sans punition, sans sanction, c'est une société dans laquelle l'autorité se délite. L'impunité génère le crime et la violence.
Valérie Pécresse qui se présente également comme la candidate du vote utile. Je suis la seule qui peut gagner contre Emmanuel Macron. Encore une question de sécurité dans un autre registre. Les agressions d'élus, maires ou députés. Dernier en date, le marcheur Stéphane Claireau hier à Saint-Pierre-et-Miquelon. Des antipasses lui ont lancé des algues et même un galet. Le chef du groupe En Marche à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, était ce matin l'invité de France Inter. Au-delà de la condamnation, il recense le nombre de députés menacés l'année dernière.
322 menaces contre des députés, dont les deux tiers contre des députés de mon groupe de La République En Marche, mais pas seulement, y compris des députés de nos oppositions qui sont menacés. Et puis ce que j'ai vu, notamment pour Stéphane, avec qui j'ai échangé cette nuit, c'est la lâcheté. La lâcheté face à un homme seul, un homme qui était pacifique, qui était sans défense et qui a fait face. Et qui est sorti, qui a voulu parler, qui les a invités à parler. Ils ont refusé. Ils lui ont jeté, c'est une spécificité locale, des algues à la figure avec l'agression et l'agressivité que vous avez vue. Nous avons toujours été ouverts au dialogue. Mais à un moment donné, le dialogue, ça implique que l'on soit deux.
Demain, le sujet fera l'objet d'une réunion à la présidence de l'Assemblée avec les ministres de l'Intérieur et de la Justice. La politique, c'est aussi la gauche en quête ou pas d'une improbable unité. À 13h30, notre invité est le candidat à la présidentielle Pierre Larouturou. Toutes vos questions au 01 45 24 7000 ou via l'appli France Inter, rubrique Réagir. Les règles anti-Covid sont-elles les mêmes pour tout le monde? Question en Australie. Dans une semaine, l'Open de tennis commence. Est-ce qu'il y aura le numéro 1 mondial, 9 fois vainqueur? Dans l'affaire qui oppose Novak Djokovic aux autorités australiennes, le tennisman vient de remporter un set, mais il reste une manche décisive. Pas vacciné, il a pu tout de même entrer sur le territoire la semaine dernière, mais il a été rapidement placé dans un centre de rétention. Djokovic, rebaptisé Novax par une partie de l'opinion australienne, a été testé positif le 16 décembre dernier. Alors l'Australie va-t-elle considérer que dans ces conditions, il peut se passer de certificat de vaccination? En tout cas ce matin, la justice australienne a ordonné sa libération du centre de rétention en estimant qu'il n'a pas pu présenter correctement ses arguments, mais le gouvernement australien doit encore se prononcer. On voit cela dans un instant. En tout cas, son grand adversaire, Rafael Nadal, après avoir eu des mots critiques à son encontre, en résumé, il a fait son choix, il assume. Eh bien, Nadal estime maintenant que la justice est passée.
Au final, on a monté tout un cirque autour de cette histoire. Au-delà du fait que l'on puisse être d'accord ou pas avec Djokovic, il ne fait aucun doute que la justice a parlé et lui a donné l'autorisation de participer à l'Open d'Australie. Je pense réellement que cette décision est juste et je lui souhaite bonne chance pour la suite.
Bonjour Winnie Claré.
Bonjour.
Alors si Nadal voit déjà son rival serbe Djokovic à l'Open d'Australie, c'est loin d'être fait Winnie. Qu'est-ce qu'on sait pour l'heure de l'imbroglio Djokovic?
La Cour fédérale de Melbourne a ordonné sa libération de l'hôtel dans lequel il était retenu depuis 5 jours et le maintien de son visa, ça vous l'avez dit.
Oui.
Sauf que le gouvernement se réserve la possibilité de le renvoyer quand même hors d'Australie. Depuis, la situation est toujours plus confuse. Juste après l'audience, la police australienne s'est rendue au pied des bureaux des avocats de Novak Djokovic à Melbourne. Alors on ne peut pas encore dire s'il a été interpellé. En tout cas, des dizaines de fans se sont eux aussi massés autour du bâtiment. Pour beaucoup, avec des drapeaux serbes sur le dos, scandant des frinolés libérés Djokovic. Côté sportif, aucune réaction pour l'instant de l'Open d'Australie, qu'il avait exempté de se faire vacciner pour disputer le tournoi. Mais vu le chaos que provoque l'arrivée de Djoko, est-ce encore envisageable sans risquer de choquer le public? Si Novak Djokovic est autorisé à disputer le majeur, reste à savoir dans quel état de forme forme. Il arrivera à l'Open, pas d'inquiétude. Au contraire, même selon le joueur australien Nick Kyrgios, pour lui, le numéro 1 mondial serait furieux et inarrêtable sur les cours.
En tout cas, il y en a un qui prépare plus sereinement l'Open de Melbourne que Djokovic. C'est Gaël Monfils, le numéro 1 français qui vient de gagner le tournoi d'Adélaïde. Il est ce matin 19e mondial, retour dans le top 20. Quand atteindra-t-on le pic de l'épidémie en France? Le dispositif de test peut-il tenir jusque-là et même au-delà? Quelques 10 millions de personnes testées par semaine en ce moment. Bonjour Véronique Julien.
Bonjour.
Les écoles vont être sous pression à cause de la progression d'Omicron. Les laboratoires aussi, et pas qu'un peu, à tel point qu'il y a désormais des ordres de priorité, Véronique.
Oui, une note de la Direction Générale de la Santé en date du 7 janvier vient de dresser une liste des patients prioritaires, doivent passer avant les autres au laboratoire dans l'ordre. Les symptomatiques, les cas contacts à risque, les patients avec prescription, les autotests positifs, les tests obligatoires aussi pour aller à l'étranger. À la toute fin seulement, les tests dits de confort pour établir une preuve, par exemple, dans le pass sanitaire. Sur le terrain, c'est une autre histoire. François Blanchecotte est biologiste en Touraine, en plein prélèvement ce matin et en plein rush. Il n'était pas très tendre avec cette note de la DGS. Elle est, dit-il, inapplicable.
Ils peuvent souffler dans une trompette, ça fera la même chose. J'ai une file de 100 personnes, là. Vous voulez venir à ma place, sortir dehors pour dire aux gens qu'il faut qu'ils repartent chez eux et d'autres qui sont prioritaires? Moi, je vous laisse faire, hein. Il n'y a aucun problème. Mais moi, je suis pas capable de le faire, ça, hein. C'est pas évident à faire sur le terrain. Vous n'allez pas refuser des gens en disant, non, on vous prend pas.
Seule solution éventuelle pour François Blanchecotte, rendre les résultats du test un peu plus tard pour les non prioritaires. Pour son collègue Lionel Baran, biologiste en Alsace, la priorisation n'est pas la solution non plus parce que finalement, l'essentiel des patients dans la file sont déjà prioritaires. Pour lui, la solution, ce serait de revenir sur certains protocoles.
Je pense notamment au PCR des cas positifs à J5 qui ne sont pas utiles. Ce n'est pas nécessaire parce que la PCR n'est pas un test qui permet de savoir si quelqu'un est contagieux ou non. C'est un test diagnostique. Donc si déjà on limite ces tests-là, on aura déjà désembolisé de nombreux laboratoires.
Lionel Baran qui voudrait aussi que les consignes officielles soient plus claires. Nos standards téléphoniques sont, dit-il, saturés d'appels de gens qui n'y comprennent plus rien.
Et puis le gouvernement essaye d'alléger la pression sur les officines. Les pharmaciens sont autorisés à recruter désormais eux-mêmes des professionnels de santé pour leur prêter main forte et à créer leur propre centre de dépistage. On élargit aussi les personnes habilitées à tester en pharmacie, étudiants en biochimie, biologie moléculaire aussi. Les pharmaciens ont réalisé la semaine dernière quelques 6 millions de tests antigéniques. Alors quel personnel pourrait leur prêter main forte? Ils ne doivent pas compter sur les médecins pour venir tester chez eux. Écoutez Jacques Battistoni, président du syndicat de médecins MG France.
Les médecins généralistes peuvent déjà faire des tests dans leur cabinet quand ils ont un patient symptomatique, mais on a beaucoup de travail en ce moment, c'est la rentrée, c'est une période chargée, il y a aussi beaucoup de patients atteints de Covid, qu'ils soient symptomatiques ou qu'ils soient cas contact, ils nous demandent beaucoup de choses, et je crois que le travail des médecins généralistes, c'est d'abord auprès de leurs patients, c'est de les soigner, c'est de leur apporter les soins que sa compétence est là pour leur apporter, c'est pas d'aller dans les pharmacies, on n'a pas le temps de faire tout ça. Beaucoup de médecins généralistes ont déjà cette espèce de double activité qui consiste à travailler dans leur cabinet, à faire des vaccinations éventuellement dans leur cabinet et aussi à prêter main forte une demi-journée par semaine, par exemple, dans un centre de vaccination. Et donc, leur demander aujourd'hui d'aller faire des tests, c'est pas réaliste du tout.
Un propos recueilli par Hélène Chevalier. Alors, comment prioriser? La France n'est pas la seule à affronter la question. Une réponse nous vient d'Israël. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
En direct de Jérusalem, Israël réserve désormais les tests PCR aux plus de 60 ans et à quelques cas particuliers, Frédéric.
Oui, depuis hier, la règle a changé. Les tests PCR sont réservés aux plus de 60 ans, aux voyageurs qui veulent entrer ou sortir d'Israël et sur dérogation à certaines personnes exposées au public, comme les soignants ou le personnel scolaire. Résultat, on patiente beaucoup moins devant les centres de tests PCR. On avait vu à la télévision des embouteillages impressionnants pour aller se faire tester. Mais du coup, désormais, on attend beaucoup plus pour un test antigénique et dans les pharmacies, les autotests risquent la rupture de stock, sachant que ces tests antigéniques sont moins fiables que les PCR et surtout, si on les pratique à la maison, eh bien, ils ne seront plus intégrés aux statistiques officielles. Hier, Israël a enregistré 12 000 nouveaux cas. Le Premier ministre estime que la vague Omicron va infecter de 2 à 4 millions d'Israéliens, soit environ un tiers de la population.
Et Frédéric, les nouvelles règles de priorité pour les tests ne se comprennent que si on évoque d'autres mesures qui viennent en complément.
Oui, depuis hier, les touristes sont autorisés à entrer en Israël à condition d'avoir eu 3 doses de vaccin et de se soumettre justement à un PCR et à une mini-quarantaine. En Israël, il n'y a pas de restrictions. Par exemple, les boîtes de nuit sont ouvertes. Comme en France aussi, on tente au maximum de ne pas fermer les classes dans les écoles. Et aussi, les professionnels de santé peuvent administrer les médicaments anti-Covid aux patients à risque, comme le Paxlovid de Pfizer ou le Paxlovid de Merck. Mais le variant galope. En 8 jours, on est passé de 103 personnes hospitalisées à 272.
Frédéric Mettezon en direct de Jérusalem en France. Une des conséquences de cette nouvelle vague de Covid, entre absence et cas contact, c'est la difficulté dans les entreprises. Exemple, en Haute-Savoie, entre Thonon-les-Bains et Publié, le groupe de matériel médical Escoffier emploie 110 personnes. Mais entre le planning qui se vide et l'approvisionnement compliqué, eh bien la période est difficile. Marie Ameline, France Bleu Pays de Savoie.
À chaque jour qui passe, depuis cette rentrée de janvier, Jean-Louis Escoffier, le PDG, voit son effectif diminuer comme peau de chagrin. Aujourd'hui, 30% de ses 110 collaborateurs de Thonon-les-Bains et Publié sont absents.
Il y a tout, hein. Il y a des positifs, des cas contacts, des fermetures d'écoles. Et aujourd'hui, on en est à faire des réunions de crise sur réunions de crise. Ce matin, voilà, j'ai passé mon temps à arbitrer des types de production en fonction des matières disponibles.
Car dans ce secteur médical où la demande en aiguille, pour perfusion, transfusion ou encore médecine nucléaire a explosé, les matières premières, comme l'inox et surtout les résines plastiques font-elles cruellement défaut.
Dans une aiguille, il y a une partie plastique et une partie inox. L'acier inoxydable, actuellement, il y a 46 semaines de délai. Ça fait à peu près 20 ans que les approvisionnements sont difficiles, mais là, ils ont doublé en termes de semaines, en fait, tout simplement. La partie plastique, ça, c'est assez récent. C'est arrivé en même temps que le Covid, où là, on n'avait jamais de problème d'approvisionnement. On vivait même très sereinement, avec des livraisons très régulières. Et ça a démarré au premier semestre 2021. Et au deuxième semestre 2021, on nous a dit que tout allait rentrer dans l'ordre. Et on voit qu'on redémarre 2022, c'est encore pire que l'année dernière.
Alors quand il ne réorganise pas ses équipes et chaînes de production, Jean-Louis Escoffier doit choisir entre ses clients des groupes pharmaceutiques français ou européens, qui il va satisfaire ou non.
Voilà pour la page Covid de ce journal, en vous rappelant cet appel à la grève jeudi dans les écoles. La FCPE appelle les parents d'élèves à s'y joindre et appelle à une journée blanche et donc ne pas envoyer les élèves à l'école jeudi prochain. Sur franceinter.fr, vous trouverez les derniers chiffres des hospitalisations. Près de 22 000 personnes à l'hôpital. Hospitalisation dite conventionnelle pour la grande majorité, mais près de 3 900 en soins critiques. Et puis les sénateurs, après les députés, examinent cet après-midi le projet de loi sur le pass vaccinal. La planète est en train de changer sous nos yeux à une vitesse inédite. Les rapports s'accumulent. Dernier en date, celui du service européen Copernicus sur le dérèglement climatique. 2021 fut la 7e année la plus chaude depuis la révolution industrielle. Les 7 dernières années ont été les 7 les plus chaudes. Et les émissions de dioxyde de carbone et de méthane continuent d'augmenter. Sophie Becherel, le rapport montre par ailleurs de fortes disparités régionales l'année dernière.
Disparité d'une région à l'autre et d'un mois à l'autre. Par exemple, en juillet 2021, la température a été de 0,3 degrés au-dessus de la moyenne des 20 dernières années, mais un record a été battu en Sicile avec 48,8 degrés enregistrés. Tous les pays méditerranéens ont d'ailleurs connu un juillet caniculaire, avec les conséquences que l'on sait, dont les méga-feux en Grèce. Il a aussi fait anormalement chaud en Scandinavie et dans les pays baltes, et dans le même temps, pluie torrentielle en Allemagne et en Belgique, avec comme conséquence, on s'en souvient, les inondations. En France, on n'a pas forcément gardé cette impression d'un été caniculaire. C'est normal, notre pays et la péninsule ibérique ont connu des températures fraîches et un taux d'humidité au sol record, comme en attestent les satellites. Ailleurs dans le monde, le Canada, la Sibérie ou encore la côte ouest des États-Unis ont aussi eu un été chaud et sec. On se souvient de Dixie Fire, le deuxième plus grand méga-feu de l'histoire récente en Californie. Ces feux ont contribué à l'augmentation du CO2 relargué dans l'atmosphère, 84 mégatonnes en plus pour la seule Amérique du Nord. Les satellites montrent aussi que les quantités de méthane envoyées dans l'atmosphère n'ont jamais été aussi massives qu'en 2021. Or, le pouvoir réchauffant de ce gaz sur le climat est 25 fois celui du CO2.
Le dérèglement climatique qui complique aussi le travail des agriculteurs confrontés eux aussi au Covid. Le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, faisait le point ce matin avec les acteurs de la filière. Risque-t-on que la chaîne alimentaire soit grippée dans le contexte actuel? On entendait ce matin le président de la Association nationale des industries alimentaires constater le taux d'absence qui monte dans son entreprise. Bonjour Kathleen Comte.
Bonjour.
Réunion donc ce matin au ministère. En une formule, pas de panique, mais vigilance.
Oui, le ton s'est voulu rassurant. Autour de la table, tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire étaient présents. Agriculteurs, producteurs, transporteurs, syndicats ou encore industriels. Tous sont inquiets. À cause du Covid et des règles sanitaires, ils constatent une augmentation de l'absentéisme dans leurs entreprises, entre 5 et 20%. Forcément, ça engendre une désorganisation de l'approvisionnement, mais pas de rupture. Ils le confirment. Pour l'instant, la situation reste tant bien que mal sous contrôle. Parmi les autres points abordés ce matin, celui des pénalités logistiques. C'est ce que doivent payer les transporteurs en cas de retard de livraison, par exemple. 38 entreprises ont manifesté leur mécontentement. Dans ce contexte exceptionnel, elles demandent que ces pénalités soient supprimées. Un avis partagé par le ministre de l'Agriculture. Autre point épineux abordé pendant la réunion, la restauration collective, fortement pénalisée en ce moment à cause notamment du télétravail. Les professionnels du secteur ont du mal à s'organiser et parlent de situations tendues. Une nouvelle réunion est prévue dans 2 semaines, là encore pour faire le point. Parmi les différents acteurs à qui j'ai pu parler ce matin, tous ont conscience que la situation évolue vite et qu'il faut rester très vigilant.
Le nombre de migrants secourus au large de Calais, pris en charge par l'État, a triplé l'année dernière, plus d'un millier. Le chiffre était de 340 en 2020. La promesse sera-t-elle tenue? En tout cas, le président du Kazakhstan, comme Vladimir Poutine, assure que les plus de 2000 soldats russes venus participer à la répression des manifestations de la semaine dernière au Kazakhstan repartiront bientôt. Le bilan de ces répressions est encore flou. Les autorités locales parlent de dizaines de morts. C'est vers l'Ukraine et la Suisse que se tournent à présent les regards. Russes et Américains se retrouvent à Genève pour parler de la sécurité à l'est de l'Europe. On estime à près de 100 000 le nombre de soldats russes regroupés à la frontière ukrainienne. Bonjour Bertrand Guélichet.
Bonjour Bruno.
À Genève, les vice-ministres des Affaires étrangères russes et américains parlent de l'Ukraine et de l'OTAN, cette alliance atlantique dont Vladimir Poutine ne veut pas à ses frontières.
Oui, et ce sont les Russes qui demandent à parler de l'OTAN alors que les Américains, eux, veulent discuter de l'Ukraine. Le périmètre des négociations n'est donc pas le même vu de Moscou ou de Washington. Les États-Unis n'ont aucune intention de se laisser dicter la politique de l'Alliance Atlantique et l'exigence russe d'obtenir un traité interdisant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est hors de question pour les Américains. Le secrétaire général de l'organisation Jens Stoltenberg prévient ce matin « L'Ukraine a le droit de se défendre, dit-il, et si la Russie décide de recourir à la force, elle devra en payer un coût important. » Moscou, de son côté, a déjà annoncé qu'il n'y aurait aucune concession en matière de sécurité. À Genève, les pourparlers sur l'Ukraine commencent donc dans une ambiance extrêmement tendue, sur fond de déclarations agressives. Deux autres réunions prévues cette semaine aborderont la question ukrainienne dans un cadre plus large, mais ni la rencontre OTAN-Russie mercredi à Bruxelles, ni celle de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, jeudi à Vienne, ne donneront voix au chapitre à l'Union européenne en tant que telle, même si de nombreux pays européens appartiennent à la fois à l'une et l'autre organisation. Quant aux Ukrainiens, ils ont clairement remis leur destin entre les mains des États-Unis.
Nous allons au Nicaragua à présent. Il a été élu la même année que Nicolas Sarkozy, 2007. 14 ans plus tard, Daniel Ortega est investi aujourd'hui pour la 4e fois. Mais c'est de son épouse que nous allons vous parler. Elle s'appelle Rosario Murillo. Elle a 70 ans, elle est vice-présidente. C'est un personnage très spécial, tout comme le duo qu'elle forme avec son mari et sa façon de faire de la politique, Valérie Crova.
Ses détracteurs la surnomment la sorcière ou la diablesse. Fille d'une cartomancienne, on lui prête des pouvoirs occultes. Tous les jours, telle une prêtresse, la camarade Rosario s'invite chez les Nicaraguayens. À l'heure du déjeuner, sur les radios et les télévisions, elle vante le programme du gouvernement.
Nous avons une vaccination volontaire contre le Covid supérieure à 78%
et liste les événements à venir.
Nous organisons un week-end riche en activités créatives et populaires, dont des dégustations de café.
Si Daniel Ortega est l'homme de l'ombre, Rosario Murillo et ses tenues bariolées incarnent la puissance au grand jour. Elle destitue les ministres, élabore la politique du pays, contrôle l'ordre du jour de la présidence, attaque les opposants qu'elle qualifie de groupuscules démoniaques. Elle peut aussi décider de dépenser 800 000 dollars dans l'installation d'arbres métalliques de 15 mètres de haut dans la capitale Managua, alors que la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. L'ancienne militante sandiniste, qui a écrit des recueils de poèmes, est aussi une mère de famille. Les 7 enfants qu'elle a eus avec Daniel Ortega occupent tous des postes clés dans la politique, l'économie et les médias. prêt à prendre la relève.
C'est un jugement politique. Le comité Nobel dénonce la nouvelle condamnation d'Aung San Suu Kyi en Birmanie. La junte la condamne à 4 ans de prison dans l'un des volets de son procès. En France, c'est désormais une bonne partie des Pyrénées qui est en vigilance rouge. Pluie, inondation, en plus des Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège. Route, rail, transport scolaire, il y a des perturbations. La consigne est d'éviter le plus possible les déplacements. Du côté des cours d'eau, on surveille tout particulièrement le Gave de l'Oron, la Nive et la Nivelle. Jusqu'à 2 mois de précipitations sont attendues en montagne en 48 heures. Pour l'instant, pas de catastrophe. Comment anticiper? Dans la commune de La Reims, près de Pau, Yann Gallic, on a activé le système d'alerte citoyenne mis en place il y a 2 ans dans une région qui est habitée aux intempéries.
Située au cœur d'une vallée montagneuse, cette commune de 1200 habitants a déjà été durement touchée par les intempéries en 2019 et en décembre dernier, où la chaussée avait été éventrée et plusieurs habitations inondées. Depuis la nuit de samedi à dimanche, il est tombé 116 mm de pluie dans le village, mais les dégâts restent très limités, en partie grâce aux protections mises en place cet hiver qui empêchent l'eau de traverser les rues descendantes, explique Robert Casadebé, le maire de La Reims.
Fort des leçons passées et des moyens mis en œuvre ce mois de décembre que nous avons préservés pour cet hiver, et donc ont été très utiles ces moyens mis en œuvre, des bâtards d'eau, des digues, des choses comme ça, ont permis de préserver le village et les rues qui avaient été sinistrées au mois de décembre, qui n'ont rien subi cette fois-ci. Nos moyens d'organisation nous permettent de maîtriser la situation.
Et la commune a également élaboré un système d'alerte qui informe les habitants en temps réel par Internet ou par SMS.
Nous avons mis en place déjà depuis 2 heures, et nous l'avons réactivé là, un système d'alerte citoyenne de connexion avec des référents de quartier. Et ce qui fait qu'en temps réel, on alerte les gens pour leur dire « Attention, il va se passer telle et telle chose, soyez vigilants. » Et nous, on est prêts à se mobiliser. Une fois qu'on les a informés, on y va, on va à leur rencontre, on leur dit « Il faut évacuer ou pas. »
Selon le maire de La Reims, cette alerte citoyenne est particulièrement efficace et permet de réagir rapidement en cas d'urgence. Depuis le début des intempéries ce week-end, aucun habitant du village n'a été pour l'instant obligé de quitter sa maison.
La météo d'Élodie Calac dans un instant. D'abord, nous allons dans la Sarthe. Depuis le début de cette crise sanitaire, on observe les changements de mode de vie entre télétravail et déménagement, et certains petits faits interpellent. Ainsi, ce baby-boom dans le village de Tresson, il compte moins de 500 habitants, 12 bébés l'année dernière, ça fait un taux de natalité de près de 25 pour 1000, là où il est de 10 pour 1000 en moyenne en France. Bonjour Béatrice Duguay. Bonjour. Que s'est-il passé à Tresson?
D'abord, pas de migration de région parisienne dans cette histoire, ouais. Mais un besoin d'espace quand même. Ça tombait bien parce que des agriculteurs prenaient leur retraite, explique Chantal Buin, la maire de la commune.
Plein d'agriculteurs sont partis à la retraite, laissant des locaux disponibles dans la campagne, et les jeunes, c'est des gens en fait qui sont revenus vers Tresson à l'occasion de ventes de propriétés en fait. Et c'est retour à vivre dans un espace sympa, voilà, simple et sympa.
25 nouvelles familles se sont donc installées ces 2 dernières années sur le village, auparavant locataires dans des communes d'à côté. Celle d'Adeline, par exemple, maman du petit Noah, est ravie de côtoyer des habitants de sa génération.
C'est vrai que le fait qu'il y ait plein de parents comme ça, c'est chouette, parce que ça va permettre de rajeunir un petit peu le village, quoi. Et puis, ça va être dynamique aussi pour les enfants. Pourquoi pas faire des goûters avec les enfants? Ça pourrait être très sympa.
Voilà, pour ça, il faut encore attendre un petit peu. Hein. L'arrivée de ces familles a déjà permis l'ouverture d'un café multiservice pendant le premier confinement. Elle conforte les 4 classes de l'école aussi. Elle devrait maintenant attirer des nounous.
Là, on n'a plus d'assistante maternelle. Donc, on est en train de transformer l'ancienne poste pour mettre à disposition d'une association. Et comme ça, les parents peuvent faire garder leurs enfants et ils vont à l'école. Sinon, on n'a plus d'école dans 5 ans quand on n'a plus d'assistante maternelle.
Les nouveaux administrés s'appellent Kalia, Gemma, Mathis, Abel, Lisel ou encore Camélia. Chantal Buin n'attend pas franchement autant de naissances dans les prochaines années. Ils ne vont pas en faire 12, dit-elle avec réalisme.
Et si vous avez des compétences d'assistant ou assistante maternelle, vous savez où vous dirigez Tresson dans la Sarthe. Merci Béatrice Duguay et Élodie Calac dans un instant.
Savez-vous ce qui est original?
Les originales du laboratoire Organon.
C'est 22 médicaments
au prix de leur générique.
Ça, c'est l'idéal. Même marque,
même boîte,
même présentation.
Pour bien suivre son traitement, garder ses repères,
c'est capital.
Organon Originals, tous libres et égaux en choix. Parlez-en à votre médecin ou allez sur organon.fr.
Entreprendre, c'est toujours une grande aventure. Mais trop souvent, entreprendre rime avec attendre. Attendre l'ouverture de votre compte pro, attendre qu'un conseiller prenne votre appel, attendre que vos virements soient effectués. Attendez, vous n'en avez pas assez d'attendre. Alors passez chez Conto, le compte qui facilite la vie des pros. Avec Conto, ouvrir un compte pro en ligne ne prend que 10 minutes. La gestion de vos notes de frais se fait en temps réel et vous profitez d'un service client ultra réactif 7 jours sur 7. Conto, le compte au service des pros.
Le temps de ce jour.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, pruneau rouge, de toutes les couleurs. Fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
On disait avec Yann Gallic cette vigilance rouge pour 5 départements du sud-ouest.
Oui, des pluies persistent à l'ouest et elles se bloquent sur les Pyrénées où elles sont soutenues. Alors Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne et Ariège sont en vigilance rouge. Sur l'épisode qui dure environ 48 heures, on attend des cumuls de l'ordre de 1 mois de pluie, parfois jusqu'à 2. Alors l'activité, elle baisse quand même un petit peu dans l'après-midi, mais les pluies, elles ne cesseront qu'en fin de nuit prochaine. On a du vent également en montagne, de la neige au-dessus de 2000 mètres, donc attention aux avalanches. Oui. En dessous de 2000 mètres, ça fond. Ça va contribuer à alimenter les cours d'eau. On attend des crues importantes sur le sud-ouest, surtout sur le Gave d'Oloron, sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, placées en vigilance orange par les services de Vigicru. Plus à l'est, c'est plus sec. La grisaille laisse la place à un temps ensoleillé. Les températures sont souvent de saison, comprises entre 3 et 9 degrés. C'est plus doux à l'ouest, de la Bretagne jusqu'au sud-ouest et même en Méditerranée, avec 10 à 14 degrés. Et puis demain, ça sera enfin plus calme, retour d'un temps ensoleillé même sur les régions du sud.
Et il fera plus froid, j'imagine.
Avec des gelées le matin, en effet.
Elodie Calac, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
8 candidats de gauche sont actuellement testés dans les sondages. Hidalgo, Taubira, Jadot, Montebourg, Roussel, Mélenchon, Artaud, Poutou. Ouf ! Les intentions de vote en leur faveur sont au total de 27% selon l'Institut Ipsos dans sa dernière livraison. C'est un niveau particulièrement bas. À 90 jours de la présidentielle, peuvent-ils encore se rassembler pour limiter le nombre de candidats? Cette union que beaucoup de sympathisants de gauche appellent de leur vœu a-t-elle encore un sens? Des militants tentent une opération de la dernière chance, la primaire populaire, organisée justement par des militants. Elle revendique l'engagement de 300 000 citoyens. Ils ont parrainé une série de personnalités, 4 déjà citées à l'instant, Hidalgo, Jadot, Taubira, Mélenchon, et 2 autres, Anna Hagueb-Portery et Pierre Larouturou. Pierre Larouturou, député européen, promoteur de la semaine de 4 jours, il a entamé avec 11 autres militants une grève de la faim vendredi pour instaurer les candidats de gauche à l'Union. Lui-même est candidat à la présidentielle. La situation, celle du climat, exige l'unité, dit-il. Bonjour Pierre Larouturou.
Bonjour.
Et 01 45 24 7000 et l'appli France Inter rubrique réagir pour dialoguer avec vous. Petite question d'actualité. D'abord, le pass vaccinal, les sénateurs vont se prononcer à son sujet après les députés. Est-ce que vous êtes pour le pass vaccinal?
Je pense effectivement qu'il faut tout faire pour qu'on se vaccine, mais surtout, je me bats avec d'autres depuis un an pour qu'on permette l'accès aux vaccins dans les pays du Sud. Mmh. Ça fait presque 18 mois que l'Afrique du Sud, l'Inde et d'autres demandent la levée des brevets pour dire qu'il faut qu'on puisse vacciner, non pas seulement dans les pays riches, mais donc c'est une vraie question encore en France, que tout le monde soit vacciné, mais dans les pays du Sud. Et depuis un an, on dit que l'égoïsme qui fait qu'on ne laisse pas l'accès aux vaccins pour tout le monde est scandaleux, parce que des millions d'hommes et de femmes vont attraper le Covid, et va nous revenir comme un boomerang, parce qu'il y aura des variants qui vont nous revenir qui sont dangereux. Mmh. Et le nouveau variant vient d'Afrique du Sud. Donc vraiment, il faut évidemment tout faire pour que les gens se vaccinent en France. Il faut tout faire pour donner plus de moyens aux hôpitaux. C'est une des raisons pour lesquelles on veut que la gauche gagne, avoir plus d'argent pour les hôpitaux. Mais il faut lever les brevets et permettre l'accès aux vaccins pour tous les pays du Sud. C'est une question vitale.
Plus d'argent pour les hôpitaux, des hausses de salaire pour attirer des gens dans les hôpitaux. On était le 13-14 à Saint-Dié-des-Vosges, qui est un hôpital moyen, la semaine dernière. La question, nous disent nos interlocuteurs, c'est pas tant celle de la volonté de travailler, mais du fait qu'on manque de bras parce que les salaires n'attirent pas suffisamment.
Il y a tout, il faut recruter, effectivement, par de meilleures conditions de travail, de meilleures organisations du travail. La question du temps de travail est très importante dans les hôpitaux, avoir plus de moyens. Il y a un an, vous vous souvenez peut-être, comme député européen, j'avais fait une grève de la faim. Pendant 18 jours, je suis député et rapporteur général du budget et le Parlement européen a voté un rapport pour dire on peut taxer la spéculation pour avoir plus d'argent pour le climat et pour la santé. On peut taxer la spéculation. Une petite taxe rapporterait 0,1%. Donc j'ai voté ce rapport par tout le Parlement et après ça, j'ai fait une grève de la faim pour dire c'est Emmanuel Macron qui bloque la négociation. Angela Merkel voulait créer une taxe sur la spéculation, Pedro Sanchez aussi, Antonio Costa, on a même été reçu par le pape François, et celui qui bloque la négociation, c'est Emmanuel Macron, alors qu'on aurait 60 milliards. Avec une petite taxe, je répète, à 0,1%, on aurait chaque année 60 milliards pour les hôpitaux et pour le climat. Raison de plus, à mes yeux, pour qu'on rassemble la gauche et pour qu'en avril, il y ait une nouvelle équipe qui arrive au pouvoir. Imaginez qu'on gagne en avril, dès le mois de mai, vous l'avez dit, c'est la France qui préside l'Europe en ce moment, si grâce à la primaire populaire, si on est des milliers à s'inscrire pour aller sur la primaire populaire, si on est des milliers à s'inscrire, on peut rassembler la gauche. Et si on gagne en avril, dès le mois de mai, on fait un sommet européen extraordinaire dans la maison de Jean Monnet. Et tous les sujets qui étaient bloqués par Macron, on les débloque.
Et vous croyez que les partenaires suivraient sur une taxe
Je vous mets demain à couper, pardon. Je suis rapporteur général du budget. Et encore une fois, après ma grève de la faim, la Commission européenne a validé ce que dit le Parlement en disant il n'y a pas besoin de l'unanimité, il suffit de 9 pays. L'autre jour, le conseiller d'Angela Merkel me disait « Pierre, c'est pas la peine d'insister, je suis un fan de la taxe sur la spéculation depuis 2014. »
Les 9 pays, on les aurait.
On les a, c'est juste que Macron et Bruno Le Maire qui bloquent. De même, quand Joe Biden propose un taux minimum d'impôt à 21%, parce que dans tous les pays du monde, il faut de l'argent pour les retraites, pour la santé, pour le climat, Joe Biden propose un taux minimum à 21% dans tous les pays.
Même si Bruno Le Maire s'est battu pour ce...
Pardon, moi, il a dit à 12%.
15,
pardon,
ouais.
Pardon, 12%. Ouais. Il a proposé un taux à 12%, ce qui a tué la négociation. Pardon, je suis ouais. Ces questions budgétaires. Donc, Emmanuel Macron n'a rien fait pendant 5 ans sur le climat ou des choses cosmétiques, malgré la gravité. Aujourd'hui, c'est les régions du Sud qui sont sous les inondations. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu 700 morts dans les canicules cet été au Canada, 200 morts dans les inondations en Allemagne. Ça peut nous arriver à tous. Chacun dans nos familles, on peut avoir un drame à cause du dérèglement climatique. Emmanuel Macron n'a rien fait pour le climat ou des choses cosmétiques pendant 5 ans et il ralentit l'action européenne. Donc voilà pourquoi, si on fait une grève de la faim, c'est pas pour rigoler. C'est pas l'avenir de Jadot ou de Hidalgo. C'est juste que si on ne fait rien pendant 5 ans sur le dérèglement climatique, dans 20 ans, on a des centaines de milliers de morts. Donc ne rien faire pendant 5 ans, c'est criminel. Voilà pourquoi on fait cette action forte, pour que les gens aillent s'inscrire pour voter sur primairepopulaire.fr.
Alors, urgence climatique, je pense que beaucoup de monde, si ce n'est tout le monde, est d'accord. Mais il y a la méthode qui interroge. Je vous lis le message de Jean et puis on va prendre Pierre au standard. Je suis assez choqué par la façon de faire de Pierre Larouturou. La grève de la faim, c'est l'arme ultime. Lorsqu'on est parlementaire, il y a d'autres moyens d'agir. C'est très radical. Question de Pierre aussi au standard, et puis je vous laisse répondre, Pierre Larouturou. Bonjour Pierre. Est-ce que vous êtes avec nous, vous qui êtes militant de la France Insoumise, c'est ce que je lis sur ma
bonjour.
Fiche.
Oui,
nous
oui,
vous
bonjour,
écoutons Pierre.
Eh bien, merci de prendre votre appel. Mon appel, pardon. Bonjour monsieur Larouturou.
Bonjour.
Je voulais juste vous dire, vous ne trouvez pas qu'il est un petit peu tard, la campagne est quand même commencée depuis longtemps. Et la gauche en France, elle a gagné, que ce soit avec Mitterrand ou François Hollande, sans l'Union. Donc, voilà, je trouve ça vraiment très tard et un peu anti-France Insoumise qui est en tête dans tous les sondages depuis le début.
Ouais, merci.
En fait, c'est mon sentiment.
Merci Pierre. Alors, deux questions sur la méthode
d'accord.
De la grève de
bien
la
sûr.
Faim, Pierre.
Est-ce qu'un député a d'autres moyens de faire? Je suis pas là comme député. Je suis là comme citoyen et comme père de famille. J'ai deux fistons, un qui a 18 ans et un 21 ans. Et je m'adresse à ceux qui nous écoutent. Mes amis, est-ce qu'on peut laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, une société invivable? Parce qu'on le sait, dans 20 ans, c'est le chaos. Dans le 20 ans, c'est des centaines de milliers de morts dans nos familles, dans les pays du Sud. Voilà. Donc si on ne fait rien, or on sait qu'il y a des solutions. Donc oui, il faut absolument...
Mais la question est sur votre méthode, sur
la
grève
méthode,
de...
c'est juste pour dire que c'est pas un petit enjeu politicien. L'avenir d'Europe Écologie, pour être clair, il y en a plein qui ont renoncé à gagner cette année et qui préparent les chances de 2027 ou 2032. Moi, la plupart des gens qui prennent les décisions sont très cool, à 6 000 euros par mois, ils sont en pleine forme, ils se disent que dans 5 ans ou dans 10 ans, ce sera leur tour. Et moi, je suis désolé, mais j'étais en Afrique avant d'être député, c'est un des trucs, une raison pour laquelle je m'engage sur le climat, j'ai fait déjà 18 jours de grève de la faim, c'est parce qu'à Bamako, au Mali, vous parlez du sida climatique. Ils vous disent que le dérèglement climatique va faire des millions de morts. Donc, c'est pas un petit problème. Et on sait, je n'ai rien contre Emmanuel Macron. Quand il a créé le Haut Conseil pour le Climat, il m'avait mis membre du Haut Conseil pour le Climat. Mais je constate que malgré les rapports du GIEC, malgré les incendies, malgré les 200 morts en Allemagne cet été, malgré le Conseil d'État qui a donné des sanctions, Emmanuel Macron ne fait rien. Et mais que Pécresse n'en parle même pas du climat.
Mais là, la grève de la faim, elle est à l'adresse de la gauche.
Elle est à l'adresse.
À quelles conditions vous l'arrêtez?
Mais
à quelles conditions vous l'arrêtez?
À Jean-Luc Mélenchon, à Yannick Jadot, mais purée, vous êtes d'accord à 80%.
Ils vous ont déjà dit non 50
mais
fois.
C'est pas, oui, mais Xavier Bertrand avait dit non avant de dire oui. Hidalgo avait dit non avant de dire oui.
Mais Yannick là, ils Jadot, ont dit non Yannick un Jadot, paquet de fois quand même.
Vous
tous.
Êtes un très bon connaisseur. Yannick Jadot avait dit non au mois de mai qu'il n'irait jamais dans la primaire des écolos. Et puis finalement, il est allé, il a gagné. Donc je voudrais juste dire, comme père de famille, avec, on est 12 à avoir fait une grève de la faim,
oui.
Des gens de 18 ans, des gens de 23 ans, et puis la fille de Stéphane Hessel, Anne Hessel, qui elle en a 75 ans. Il faut dire, c'est pas de la rigolade.
Mais donc vous l'arrêtez, vous n'avez pas répondu. Vous l'arrêtez à quelles conditions?
On veut, notre objectif est simple, on a deux objectifs, que tous ceux qui veulent comme nous provoquer un sursaut dans ce pays, qui veulent mettre le climat, la justice sociale, l'avenir des retraites, l'avenir des hôpitaux, on sait bien que sur tous ces sujets, Macron va aggraver les problèmes sur les retraites, sur les hôpitaux.
Jusque là ça répond pas à ma question.
Pardon, c'est juste que
vraiment
si on
spécifiquement
est des milliers,
sur la grève de la
si on est des milliers à aller s'inscrire sur le site primairepopulaire.fr, c'est gratuit. On va vous demander votre carte bleue pour vérifier que vous
donc
êtes une vraie personne.
Donc en fait vous la faites pour médiatiser la primaire populaire, ce qui peut être une raison
fondamentale. Un proche de Yannick Jadot m'a dit l'autre jour que beaucoup d'amis de Yannick Jadot lui disent qu'il devrait rentrer dans la primaire populaire, qu'il peut la gagner et que même s'il gagne pas, il sera numéro 2 dans une équipe qui peut gagner. Et donc il m'a dit le seul moyen que Yannick Jadot bouge, c'est qu'il y ait 600 000, 700 000 personnes qui aillent sur le site de la primaire populaire et qui s'inscrivent.
Vous deviez prendre rendez-vous et avec Jadot et avec Mélenchon. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce qu'ils vous ont répondu? Et
on
j'imagine
leur a demandé,
que comme aux autres, ils ont dit non.
On leur a demandé rendez-vous.
Interview après interview, ils répètent que c'est non.
La réponse est oui, mais il y a 15 jours, Anne Hidalgo avait dit non. Jusqu'à il y a 3 jours, vous ne connaissiez pas la réponse de Christiane Taubira. Et aujourd'hui, ils espéraient tous décoller. Yannick Jadot, comme député européen, je prends des cafés avec lui parfois. Ouais. Il nous avait dit qu'il serait à 13% avant Noël. Voilà. Il est entre 4 et 6% aujourd'hui. Donc, un peu de modestie. Aucune de nous n'a toutes les solutions. Mais si on fait une équipe, on peut gagner et changer la vie des gens. En Allemagne, il y a une coalition entre les écologistes et les socialistes. Ils vont augmenter le salaire minimum. Les écolos espéraient gagner, mais ils sont juste numéro 2 dans la coalition. Mais cette coalition va augmenter de 25% le salaire minimum.
L'unité, vous y croyez encore?
Oui, pardon, sinon on ne ferait pas ça. Est-ce qu'on va attendre 5 ans pour augmenter le salaire minimum comme la coalition d'Allemagne?
Alors,
est-ce qu'on va attendre 5 ans pour améliorer les retraites ou donner plus de fric à l'hôpital?
L'unité à quelles conditions, Pierre Larouturou? C'est la question de Sylviane. Bonjour Sylviane.
Oui, je suis Sylvette et pas Sylvette.
Ah, Sylvette, pardon, excusez-moi.
Ce n'est pas très grave. Oui, monsieur Larouturou, que j'ai eu la chance d'entendre plusieurs fois en conférence. Oui, quel serait, selon vous, monsieur Larouturou, le plus petit dénominateur commun qui, enfin, permettrait une candidature unie à gauche?
Pierre Larouturou.
Le plus petit commun dénominateur, en fait, on a 80% de choses en commun. Quand vous voyez ce que dit Yannick Jadot pour le climat, pour les hôpitaux, pour donner plus de moyens à la police et à la justice ou à l'école, quand ce que dit Jean-Luc Mélenchon, Hidalgo, on a 80% de choses en commun. Et tout ce qu'on a en commun est fondamental pour notre avenir. Sur le climat, sur les retraites, sur l'éducation, c'est fondamental.
Pardon, sur le climat, Pécresse, nucléaire. Nucléaire.
On n'est pas d'accord sur la question du calendrier. Mais je vous ai dit qu'on est, je vous ai pas dit qu'on était d'accord à 100%. Je dis que tout ce qu'on a en commun est fondamental et ni Pécresse, ni Macron ne le feront.
Mais nucléaire, c'est fondamental en termes d'argent investi, en termes d'emploi, en termes d'engagement
la réponse
sur l'avenir.
Oui, mais nous, on veut un plan d'investissement massif. Justement, on explique que si on gagne, on peut créer une taxe sur la spéculation, ce que Macron ne veut pas, et qu'on aura un énorme plan pour aider chaque famille, si on gagne, chaque famille aura une aide pour isoler sa maison. Dans mon coin des Pyrénées, il y a les inondations. Il y aura des aides pour faire des transports en commun, pour limiter le dérèglement climatique et se protéger.
Et nucléaire, et vous, président Pierre Larouturou, vous, président nucléaire, vous
moi,
en sortez, vous réinvestissez.
Moi, je fais surtout un investissement massif pour avoir besoin de moins d'énergie. Voilà. Et même l'ADEME vous dit qu'on peut arriver d'ici 20 ans à une énergie 100% renouvelable.
Donc on sort du nucléaire d'ici 20 ans?
En 20 ou 30 ans. Mais justement, je ne prétends
donc
pas.
Donc on ne réinvestit pas dans de nouveaux réacteurs.
On n'a pas besoin de nouveaux réacteurs, ça c'est tout à fait clair, même du point de vue bêtement économique. Mon papa a travaillé toute sa vie à EDF et il nous expliquait à l'époque que le nucléaire était beaucoup moins cher que les énergies renouvelables.
Donc
c'était
vous êtes en désaccord par exemple avec Fabien Roussel?
Fabien Roussel, là, il peut évoluer là-dessus. Honnêtement, si la question est de savoir comment est-ce qu'on améliore la vie des gens et le pouvoir d'achat, l'autre jour j'ai vu un monsieur qui vivait dans un HLM, on a isolé son HLM, il gagne 800 euros chaque année sur les dépenses de chauffage, 800 euros et il consomme beaucoup, 800 euros d'économie pour sa famille, il consomme beaucoup moins d'énergie. Donc la question du nucléaire, c'est un choix important, mais si on met le paquet avec un plan et que chaque famille peut isoler sa maison ou son appartement, on aura besoin de moins d'énergie et on peut doucement sortir du nucléaire sans avoir besoin des EPR qui sont très 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 chers.
Bien noté. Est-ce que vous soutiendrez le vainqueur ou la vainqueur de la primaire populaire, quel qu'il soit, qu'elle soit?
La réponse est oui. Évidemment, il faut qu'on fasse une équipe. Regardez, au Chili, celui qui a gagné, c'est Gabriel Boric, un gars de 35 ans qui au début ne voulait pas être candidat. Et puis, il a gagné une primaire, la primaire du Bloc des Dignités. Et il a réussi à gagner avec 56% l'élection présidentielle. Aux États-Unis, il y a 2 ans, on avait peur que Donald Trump fasse un nouveau mandat. Ça aurait été horrible pour les États-Unis et pour la planète si Trump avait gagné.
Donc, Hidalgo, Taubira, Jadot, Montebourg et les autres, s'ils gagnent.
La réponse est oui, je ferai campagne avec eux, et on sera dans l'équipe et on continuera à bouger pour qu'ils fassent une politique pour le bien social. Léon Blum, quand il est arrivé au pouvoir, ne voulait pas des congés payés, mais le peuple a continué à être dans la rue joyeusement pour demander des congés payés. Léon Blum a accepté. Donc même s'il y en a parmi celui ou celle-là qui vous le trouvez trop ceci ou pas assez celui-là, pensez pensez, si vous allez voter le 26 mars au deuxième tour, le 26 avril au deuxième tour, 24 avril au deuxième tour, si vous devez choisir entre la peste et le choléra. Moi, je ne veux pas, au deuxième tour des présidentielles, je ne veux pas avoir voté entre, choisir entre Macron et Pécresse ou Macron et Le Pen. Donc, c'est maintenant que ça se joue dans les 10 jours qui viennent. Est-ce qu'on est capable de se rassembler et de faire une équipe?
Question, vous qui avez beaucoup milité pour le renouvellement des pratiques politiques dans le cadre de la primaire populaire, le vote se fait de manière particulière. C'est un vote au jugement majoritaire, une mention 1 à 5 de excellent à rejeter. C'est celui ou celle qu'obtient la meilleure moyenne qui l'emporte. Est-ce que ce type de vote vous convient? Est-ce que ça vous semble de nature à renouveler la pratique et à donner un résultat pertinent?
La réponse est oui. Du coup, ceux qui ont les meilleures notes, c'est ceux qui veulent jouer en équipe. Parce que tous, ils se déchirent pour savoir qui sera à l'Élysée, mais tous, ils disent qu'ils veulent une 6e République avec plus de pouvoir pour l'Assemblée nationale et pour les citoyens. Donc, c'est quand même ridicule. On est des millions à trouver ça ridicule. Ce combat de petits coqs pour savoir qui sera à l'Élysée, alors qu'ils ont tous presque le même projet, et que si on continue comme ça, aucun ne sera à l'Élysée. Et c'est pas Macron ou Pécresse qui vont agir pour le climat, c'est pas Macron ou Pécresse qui vont améliorer les retraites ou mettre ou changer la démocratie. Donc, il faut qu'on se rassemble, et je le dis, la balle est dans notre camp. Toutes les enquêtes montrent que 70% des gens veulent cette primaire. S'il vous plaît, prenez 2 minutes pour aller sur le site primairepopulaire.fr. C'est gratuit. On va vous demander votre carte bleue pour vérifier que vous êtes une vraie personne, mais c'est gratuit. Prenez, s'il vous plaît, 2 minutes pour aller primairepopulaire.fr.
On a bien compris le sens de votre action et on médiatise à travers ça, à travers votre action, la primaire populaire. Je dis vous et les 11 autres militants. Comme c'est probable, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon continuent de dire non, que faites-vous?
Mais on continuera, parce qu'il y aura un ou une gagnante.
La grève de la faim, vous la continuez?
On va voir entre nous. Le but n'est pas de nous mettre en danger. Mon but n'est pas de faire semblant. Notre but est d'éviter des milliers de morts. Notre but, franchement, si on ne fait rien, je répète, il y a eu 700 morts dans les canicules au Canada, des gens comme vous et moi qui meurent en quelques heures. Il y a eu 200 morts cet été en Allemagne dans les inondations. Dans le Var, des amis, on a tous des gens qui habitent dans le sud qui ont eu la trouille quand il y a eu plus de 10 ou 12 morts dans les inondations.
Urgence climatique, on a compris.
Oui, pardon, mais c'est pour dire que c'est pas un enjeu marginal, c'est pas une blague. Donc il faut absolument qu'on se rassemble, qu'on fasse une équipe et je pense qu'on peut gagner.
Merci Pierre Larouturou d'être venu dans les studios de France Inter.
Merci à vous.
13h45.
France Inter. Le 13-14.
À suivre dans 10 minutes le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Aujourd'hui, l'héritage si précieux en ce moment d'un homme né il y a 200 ans.
Pasteur, qui avait peut-être imaginé ce que l'OMS appelle la santé globale.
À tout à l'heure. Avant cela, le feuilleton, portrait d'une femme hors du commun, la chef d'orchestre Zaya Ziwani. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Cela fait aujourd'hui 6 ans qu'est mort David Bowie, auteur, compositeur, interprète et légende. C'est une de ses chansons que nous allons entendre avec le journaliste et écrivain Eric Fotorino.
Eric Fotorino qui, m'a-t-il dit, n'est pas du tout un expert de Bowie, contrairement à sa femme, fan de la première heure, mais un titre de Bowie a pour lui une importance singulière, un titre qu'il a écouté en boucle pendant une période de maladie. C'était au mois de novembre 2020.
J'ai eu le Covid comme bien d'autres Français. Heureusement, je m'en suis sorti, mais ça a été 12 jours de fièvre. J'avais l'impression de perdre un peu conscience et c'était très douloureux et épuisant. Et donc, je pouvais rien faire d'autre que d'aller d'un bout à l'autre du lit avec mon téléphone. Et il y a une chanson qui m'a peut-être sauvé, mais en tout cas qui m'a permis de faire ce voyage assez étrange de la maladie. Et c'était une chanson avec une voix très grave de David Bowie qui s'appelle Space Oddity. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Vous avez l'impression que cette chanson vous a aidé vraiment?
Les journées étaient très longues et vous pouvez pas faire grand chose. Et donc c'est vrai que cette chanson, elle était comme un fil rouge. Je savais que j'allais l'écouter tôt le matin, puis que j'allais réappuyer pour la réécouter. Et donc oui, c'est ce petit fil, d'une certaine manière, comme une lumière allumée dans un environnement de nuit. Parce que la voix très rassurante, très chaude de Bowie, la musique un peu psychédélique, ben, ça me faisait planer, si vous voulez. J'avais l'impression d'être dans cet univers un peu cotonneux dans lequel m'avait plongé le Covid. Major Tom to ground control. I'm stepping.
Space Oddity, chanson parue en 1969, Frédéric.
Et c'est le tout premier grand succès de David Bowie, tout début de sa carrière. Un titre et des paroles inspirés par le film de Stanley Kubrick, 2001, L'Odyssée de l'espace, sorti l'année précédente.
Cette chanson de Bowie raconte l'histoire d'un astronaute qui est sur orbite, qui est dans l'espace, tout va bien, et communique avec la base de contrôle. Il a tout fait bien, mais au fur et à mesure, on le perd et on comprend qu'il ne va pas rentrer. Et cette chanson, elle disait à la fois la grande puissance, une puissance qui envoie des hommes dans l'espace, il faut être quand même fort pour faire ça, et en même temps, la fragilité de cet homme, incarné par Bowie quand il chante Space Oddity. Il est comme un secours, c'est une voix qui vous secourt, alors que c'est une voix perdue, c'est quelqu'un qui est en train de se perdre, et en même temps il vous attrape.
Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous réentendez, par hasard peut-être, la voix de David Bowie, c'est à ce passage de votre vie que vous pensez ?
Absolument. C'est-à-dire que j'ai écouté d'autres chansons de Bowie, mais celle-là, pour moi, elle reste liée à ce moment où j'ai eu l'impression que moi, qui étais en bonne santé, tout d'un coup, la vie s'arrêtait, qu'elle pouvait s'arrêter du jour au lendemain. On n'en aurait pas fait une affaire. C'était comme ça. Des milliers de gens, des centaines de milliers de gens sont morts comme ça.
Et c'est la guérison.
Et c'est la guérison. Le 13e jour, je me suis levé.
David Bowie, Space Oddity, preuve que la musique adoucit les mœurs, mais aussi les mots, M-A-U-X. C'était donc, cher Frédéric, le choix du journaliste et écrivain Eric Fotorino.
Eric Fotorino, dans la nouvelle, La Pêche du Jour, sera jouée du 21 au 30 janvier par Jacques Weber et Lola Blanchard au Théâtre du Rond-Point à Paris. Texte publié aux éditions Philippe Ray.
Le feuilleton à 13h50 jusqu'à vendredi, nous passerons une semaine dans la vie d'une femme qui est une exception dans le monde de la musique. Femme, chef d'orchestre, élevée en Seine-Saint-Denis par des parents venus d'Algérie, et Zaya Ziwani, c'est d'elle qu'il s'agit, restée dans ce département de Seine-Saint-Denis où elle dirige l'orchestre Divertimento. Elle vit à Pantin, où elle a grandi. C'est là que Zaya Ziwani a reçu Amélie Perrier.
Bonjour Zaya, merci beaucoup.
Ça va ?
Oui, très bien, et vous ?
Ça va, merci.
Merci de m'accueillir.
Venez, je vous en prie. Merci beaucoup Zaya de m'accueillir chez vous. On est ici à Pantin, c'est là où vous avez grandi. Je suis née à Paris d'abord, et puis mes parents ensuite sont venus s'installer en 1980 ici à Pantin. Pas tout à fait dans cette maison, mais dans le même quartier dans lequel je suis. C'était un endroit, un quartier qui était très différent d'aujourd'hui, bien évidemment. Et je me souviens encore quand on était petit, il y avait encore des fermes autour. Ma mère nous emmenait voir les vaches après l'école. Depuis, je suis toujours à Pantin et maintenant je suis à quelques pas justement de la Philharmonie, de la Cité de la Musique. Peut-être que c'était déjà un signe. Je pense qu'à un moment donné, mes parents avaient peut-être en tête un jour peut-être de revenir en Algérie. Et puis finalement, on a grandi et puis on s'est très bien épanoui et grandi ici en France. Et notre avenir s'est construit ici.
Des parents très mélomanes. Qu'est-ce qu'on écoute à la maison ?
Alors avec maman, c'était parfois un peu de la chanson française. Plein de styles de musique différentes. Après, avec papa aussi, mais c'était surtout beaucoup de la musique classique. Papa, il adorait les symphonies de Mozart, de Beethoven, les opéras aussi. On a beaucoup écouté les Noces de Figaro, la flûte enchantée. Donc en fait, on a été baignés en musique toute notre enfance. Et c'était quelque chose d'évident et de naturel dans notre quotidien. Papa, lui, l'une des premières choses qu'il a faites en venant en France, c'était de s'acheter un petit transistor et d'écouter beaucoup la radio. Et c'est vrai qu'il a été beaucoup connecté avec France Culture à l'époque. C'est comme ça qu'il a découvert la musique classique. Il avait vraiment envie, je crois, et c'est même sûr, de mieux comprendre aussi la culture du pays dans lequel il venait s'installer. Et donc, il a beaucoup lu, il a beaucoup écouté la radio, lu des journaux, lu des livres, et donc passionné d'histoire aussi. Donc, ce qui fait que, la lecture, la musique, l'histoire, ça a été vraiment des sujets qu'on a beaucoup partagés avec lui et avec ma mère aussi quand on était jeunes.
Vous avez 8 ans avec Fetouma et là, vos parents vous inscrivent au conservatoire à Pantin.
Oui, alors en effet, ils nous inscrivent. Alors ça n'a pas été forcément hyper évident, cette premier contact avec la musique au conservatoire. Ma mère, elle n'avait pas forcément conscience qu'il y avait un conservatoire de musique dans la ville où on était. Et donc au moment où elle a été nous inscrire, on lui a dit, bah, écoutez, malheureusement, il ne reste plus qu'une seule place. Donc elle n'a pas voulu choisir entre ma sœur et moi. Et du coup, c'est notre petit frère qui a eu cette place très précieuse. Comme toujours, elle a été dégourdie, elle ne s'est pas laissée démonter. Elle assistait aux cours de mon frère, elle prenait des notes. Et du coup, elle nous apprenait à la maison ce que mon frère avait appris le jour J, en fait. Quelques mois après, en cours d'année, il y a eu des places qui se sont libérées. Et après, ça a été le début d'une longue aventure.
Une semaine dans la vie de Zaya Ziwani, feuilleton signé Amélie Perrier, réalisation Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Le vif de l'histoire à l'heure où le produit au cœur de l'actualité et des débats est le vaccin. 2022 marque les 200 ans de la naissance de Pasteur. Et le numéro de janvier du magazine L'Histoire lui est consacré. Pasteur Jean Lebrun, on n'y pense pas nécessairement, mais il était doté d'un nom prédestiné.
Et d'un prénom. Le prénom?
Louis.
Oui, non, parce que la dernière fois qu'on a parlé de Pasteur, on s'est trompé. Pasteur, la fonction la plus belle qui soit, Bruno. L'historien rêverait de pouvoir l'exercer si les attentes et les mémoires de la société n'étaient si contradictoires. Il faut dire que le vaccinateur lui-même n'y parvient pas aisément. Pasteur, le berger compte son troupeau, mais ne sommes-nous pas plus nombreux que nous ne le pensons? Il est d'autres acteurs que ceux qui sont visibles à l'œil nu. Ce sont les agents microbiens. Être pasteur, c'est s'en défendre. La légende veut qu'à la fin de sa vie, en 1895, rassemblant ses disciples sous le chêne de son parc, Pasteur leur aurait dit « Allez enseigner toutes les nations ». Pasteur, c'est un nom de Pentecôte qu'on retient facilement, qu'on traduit aisément.
Et les pasteuriens s'en sont allés aux quatre coins du monde.
Depuis la défaite de 1870 et la crise allemande de la pensée française qui s'en est ensuivie, le maître n'avait cessé de se mesurer à la science d'outre-Rhin et à son concurrent direct, Koch. L'allemand identifiait le bacille de Koch, celui du choléra, etc. Le français protégeait avec ses vaccins. Alors les médecins de la métropole ont mis du temps à le suivre, mais la médecine coloniale, dont on n'imagine plus qu'elle a été une spécialité très singulière, était intégralement pasteurienne. Du vivant même du maître, des instituts pasteurs furent créés dans l'Empire, en Indochine par exemple, suivirent Tananarive, Brazzaville, Tanger, Dakar, etc. Puis, la multiplication se compléta grâce à d'autres réseaux d'influence. L'Institut Pasteur de Téhéran, fondé en 1921, affiche toujours le portrait du maître aux côtés de l'ayatollah Khomeini.
Et la pandémie actuelle rappelle la nécessité de ce que l'OMS dit une santé globale, portée par une médecine qui traverserait les frontières, diminuerait les inégalités dans l'accès aux soins. C'est un langage pasteurien.
Enfin, sans doute Pasteur n'aurait-il pas employé le mot santé globale et il ne concevait pas les inégalités exactement comme nous. En 1884, n'a-t-il pas sollicité l'empereur du Brésil qu'il protégeait? Sire, est-ce que vous ne pourriez pas me confier quelques-uns de vos condamnés à mort afin d'expérimenter mon vaccin contre la rage? Mais, c'est vrai, en 2004, a été rédigée une déclaration des valeurs pasteuriennes qui prône le souci humanitaire, l'intégrité des chercheurs, les partenariats transdisciplinaires loyaux et féconds. Cette déclaration a été promulguée dans les murs de l'Institut du 15e arrondissement de Paris, construit au-dessus de la crypte où repose celui qui a vaincu la mort et où sont associés dans le décor, comme autant de vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité et la science.
Autant de grands mots, mais la réalité aujourd'hui, cher Jean, c'est que les pays à haut revenu, le sixième de la population mondiale, a bénéficié de la moitié des doses de vaccins. Et dans les autres pays, eh bien, le virus, en se propageant, se prépare à faire survenir de nouveaux variants.
Même si demain nous atteignions l'immunité collective, ces variants, qui pourraient venir des pays pauvres, redoubleraient le danger. Alors il est difficile d'imaginer comment pourrait réagir Pasteur en la circonstance. Il entendrait l'argumentation des sociétés qui, ayant inventé les vaccins, ne veulent pas en partager de suite les brevets au motif qu'elles doivent investir pour faire face au péril à venir. Le numéro de l'Histoire insiste sur la dimension d'entrepreneur de Pasteur, trop dissimulée par l'image d'Épinal républicaine. Lié d'abord au milieu industriel, avant de l'être aux dirigeants politiques, Pasteur n'a cessé de protéger ses inventions, voire de les valoriser financièrement. Il était tout sauf un naïf. Il était même capable en montant toutes sortes d'expérimentations spectaculaires, d'épater les naïfs. Mais avec le temps, les formes qu'ont données les pasteuriens à leur vocabulaire ont fini par communiquer de la force aux idées d'universalisme. Une science universelle qui existe déjà dans les mots ne demande qu'à exister dans les faits. Et d'ailleurs, les grands laboratoires pharmaceutiques capitalistes peuvent en venir à cette conclusion aujourd'hui. Sans accès équitable aux vaccins dans le monde, la pandémie ne pourra que perdurer. C'est une citation du porte-parole de Johnson et Johnson.
Pasteur, Louis Pasteur, la foi dans la science et un savant dans la République, c'est le numéro de janvier de la revue L'Histoire. À demain, Jean Lebrun et bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La terre au carré, un verre de vin à l'heure du café.
Et à l'heure du réchauffement climatique malheureusement.
Surtout. Merci Mathieu, à tout de suite.